Vous êtes bien installé? Oui, content d'être là? Oui, ben c'est bien. Moi aussi, je suis content d'être là. Attentif? Oui, certainement. J'espère que je serai attentif aussi à vos réactions. Je serai clair dans ce que je dirai. Est-ce que Pedro est préposé au diaporama? Très bien. Alors, il y a 4 semaines, nous avons ouvert nos Bibles au début de la deuxième lettre de Pierre. Une lettre dont on ne parle pas énormément. Moi, je ne la connaissais pas très bien. Je la connais un tout petit peu mieux. Et nous nous sommes arrêtés alors sur les 11 premiers versets du chapitre 1. Pedro. Et donc, je résume simplement pour dire que dans ce que nous avons dit il y a 4 semaines, l'idée principale se reportait sur 2 thèmes complémentaires. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, et nous devons de faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi un certain nombre de vertus dont je ne relis pas la liste. Et en s'appuyant sur cette idée principale, avait été choisi le titre de la prédication il y a 4 semaines, La plénitude de la grâce est un indispensable effort. Voilà, tu peux y aller. Aujourd'hui, eh bien, nous allons, en sautant la deuxième partie du chapitre 1, lire dans le chapitre 2. Alors, il est intégralement consacré à des personnes que Pierre appelle des enseignants de mensonges. Dans ma traduction, cette expression enseignant de mensonges se trouve 3 fois, au verset 1, au verset 10 et au verset 17, donc du chapitre 2 de cette deuxième lettre de Pierre. Le sujet, pour moi, est complexe. Il est ardu, un peu aride, mais nous allons essayer de toutefois de tirer quelques bénéfices de cette lecture du chapitre 2. J'ouvre d'abord une parenthèse pour dire, ça m'a frappé là, il y a quelques jours, que l'expression enseignant de malheur est une expression qui est hautement paradoxal. Un enseignant a vocation à enseigner des vérités, pas des mensonges. J'ai dit enseignant de malheur, je voulais dire enseignant de mensonges. Cette expression me semble paradoxale. Et ça, dans tous les domaines de la connaissance, et pas seulement en ce qui concerne les affaires de Dieu. Alors, pour moi, ce paradoxe a constitué une motivation à entrer un peu plus dans le texte du jour, même s'il est, pour moi, je le répète, complexe et un peu aride. Fin de parenthèse. Alors, je crois qu'il est maintenant temps de donner un titre à cette prédication qui s'appuie sur l'intégralité du chapitre 2, même si on ne lit pas tout. Je l'ai intitulé Diatribe de Pierre contre les enseignants de mensonges. Une diatribe, c'est une critique violente. Et vous allez voir que c'est assez violent. Alors, le décor étant planté, j'annonce à partir de maintenant 4 parties. Alors, première partie, bien, les enseignants de mensonges, ce que Pierre écrit sur leur comportement. Je vous lis en raccourci les 3 premiers versets de ce chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec leurs histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Alors, vous notez que ce passage, dans ma traduction, est au futur. Alors, je reviendrai sur cette observation tout à l'heure. Alors, que feront-ils ces enseignants de mensonges ? Eh bien, d'abord, ils introduiront subtilement, sournoisement, dans une autre traduction, des erreurs qui mènent à la perdition. Ensuite, ils renieront Jésus, le maître qui les a rachetés, et ces deux raisons, les erreurs qu'ils introduiront et le reniement du maître, les conduira, c'est écrit déjà deux fois dans ce qu'on vient de lire, les conduiront à la perdition. Mais le texte nous dit plus. Le texte nous dit que ces personnes sont immorales, que ces personnes entraîneront beaucoup de gens dans leur immoralité. Et par ailleurs, elles exploiteront, avec des histoires de leur invention, elles exploiteront les lecteurs de Pierre par amour de l'argent. Alors, en d'autres termes, et pour résumer ces trois premiers versets, ces enseignants de mensonges sont répréhensibles à la fois pour leurs propos mensongers qu'ils tiennent, mais aussi pour leur inconduite personnelle immorale. Autrement dit, ils sont répréhensibles pour ce qu'ils disent et pour ce qu'ils font. Pedro. On est toujours sur la partie 1, suite, c'est ça. Je n'ai pas mes lunettes de loin. Alors, concernant leur conduite immorale, et pour faire la bonne mesure, je pensais vous citer encore quelques indications données par Pierre, et je pensais sinon lire, du moins résumer, un grand passage qui va jusqu'au verset, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 17, qui traite des méfaits de ces personnes-là. J'ai pensé tout à l'heure, assis sur le banc, que c'était un peu long, donc je décide d'enjamber cette partie-là et simplement de vous signaler qu'il y a au milieu une parenthèse que Pierre fait, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Il n'empêche que toujours au sujet de leur comportement, et je ne résume pas donc cet assez grand passage-là que je viens de citer, Pierre nous laisse un autre indice. Il nous dit au verset 19 que ces enseignants de mensonges tiennent des discours grandiloquents. On les entend de loin, ces enseignants de mensonges. Leurs discours sont grandiloquents, de grandis, qui veut dire sublime. Mais ne nous y trompons pas, le mot grandiloquent a ici un sens très nettement péjoratif. On pourrait dire pompeux, emphatique, ampoulé, précieux, ronflant. Bon, passons sur cet aspect-là, qui n'est qu'un indice, ce n'est pas le plus important, mais il est dit dans le texte que leurs discours sont grandiloquents et creux. Alors, concernant leur avenir, eh bien, le sort de ces enseignants de mensonges, on l'a lu, est déjà arrêté, parce qu'ils ont renié le maître qui les a rachetés, parce que par leur conduite, ils attireront ainsi sur eux une perdition soudaine, comme on l'a vu au verset 1. Et par ailleurs, au verset 14, que je n'ai pas lu, on peut lire ceci, ils sont tous sous la malédiction divine. Voilà ce que Pierre écrit sur eux au verset 14. Il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Alors, il est temps de faire une petite pause et dire que, qu'est-ce qu'on vient de lire là ? Que Pierre donne un avertissement contre les enseignements de mensonges, et cela, qu'ils soient déjà à l'œuvre, ou encore qu'ils soient à venir pour l'entourage des lecteurs de Pierre. On a noté, je l'ai indiqué au début, que les trois premiers versets sont au futur. Donc, on pourrait penser que ces enseignants de mensonges sont encore à venir dans l'entourage des lecteurs de Pierre. Mais un certain nombre de tournures utilisées dans la suite montre que peut-être ils sont déjà à l'œuvre au moment où Pierre écrit sa lettre. Et cet avertissement est d'autant plus sérieux que la partie 3 la partie 2 qu'on va aborder montrera d'une certaine façon que les enseignants de mensonge ont été présents à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Alors, peut-être vont-ils venir, peut-être sont-ils là, mais de toute façon, on a des indices qui laissent à penser, on le verra dans la partie 2, qu'il y a des traces de leur action dans toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Alors, il ne s'agit pas de mettre l'étiquette « enseignant de mensonge » sur le front de toutes les personnes qui tiennent des propos qui nous surprennent. Mais il s'agit quand même de demander au Seigneur, dès maintenant, et pour ne pas être surpris, le discernement et la sagesse pour les reconnaître si leur chemin vient à croiser un jour celui de nos communautés. Pedro, partie 2. Les enseignants de mensonge, ce que Pierre écrit sur leur place dans l'histoire. Alors, à coup sûr, Pierre annonce à ses lecteurs qu'ils verront ces enseignants de mensonge à l'œuvre dans les temps à venir. C'est pour cette raison qu'il a mis au futur les trois premiers versets. J'ai indiqué qu'il y a des indices dans le texte, par les tournures utilisées, qu'il sous-entend qu'ils sont aussi déjà à l'œuvre. Mais plus encore, et c'est le but de la deuxième partie, Pierre va montrer que ces enseignants de mensonges sont plus ou moins présents à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Ils s'inscrivent dans une lignée déjà ancienne de personnes impies, c'est-à-dire de personnes sans religion ou dont la conduite offense la religion. Alors pour ceci, je vous lis les versets 5 et 6 de ce deuxième chapitre. Il n'a pas, on parle de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé 8 personnes, dont Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre en les réduisant en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui arrivera. Donc, Pierre, au verset 5, évoque la période de Noé, ce qu'il appelle le monde ancien, que Dieu n'a pas épargné parce qu'il n'avait aucun respect pour lui. Il rappelle aussi au verset 6 que Dieu a détruit les villes de Sodome et de Gomorre en les réduisant en cendres pour donner un exemple à ceux qui se révoltent contre lui. Alors, on notera que à chacune de ces deux époques, la présence en contrepoint d'un homme juste qui s'est situé en opposition à ses contemporains impies. Alors, à l'époque du déluge, eh bien, ce fut évidemment Noé, dont la fin du verset 6 indique que Dieu a protégé 8 personnes, dont Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. À l'époque de la destruction de Sodome et Gomorre, ben ce fut Lot que Dieu a délivré. Au verset 7 et 8, Pierre n'hésite pas à qualifier Lot d'homme juste. Verset 7, il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes, car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son âme intègre à cause de leurs agissements criminels. Nous ouvrons maintenant une parenthèse au sujet d'un troisième personnage biblique qui est cité dans ce chapitre. Ce troisième personnage biblique apparaît dans une parenthèse que Pierre crée dans le passage que j'ai évoqué tout à l'heure, dont j'ai dit que je ne le lisais pas, même que je n'en lisais pas des extraits et que carrément nous sautions ce paragraphe. Ce personnage biblique qui s'appelle Balaam. Bon, il n'est pas forcément connu de tous, très connu. Pierre donc ouvre une parenthèse sur lui Alors là, certes, Balaam, il n'est pas du côté de Noé, il n'est pas du côté de Lot, il n'est pas du côté des justes. Il est même dit qu'il a aimé l'argent mal acquis et qu'il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. Donc je me place dans ce passage-là que j'ai sauté tout à l'heure, au verset 15 et 16. S'ils ont abandonné le droit chemin, là il parle à nouveau des prophètes de mensonges, s'ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis, mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. Alors, il y a peut-être des souvenirs d'école du dimanche qui reviennent là. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Troisième personnage biblique qu'on trouve dans ce chapitre 2. Alors, il n'est peut-être pas inutile, ce n'est pas déterminant, mais il n'est peut-être pas inutile de consacrer quelques minutes à Balaam, qui est un personnage un peu mystérieux, dont on ne parle pas forcément tous les matins. J'ai, il y a quelques années en arrière, noté tous les passages de la Bible qui parlaient de Balaam. Et Dieu voulant, je vous parlerai peut-être un jour de cette personne un peu mystérieuse. Le livre des Nombres lui consacre quand même 3 chapitres. Les chapitres 22 à 24, ce qui n'est pas rien. Balaam était un devin qui habitait dans le pays de Moab. Et par 2 fois, Balak, le roi de l'époque, dans le pays de Moab, lui demanda de venir maudire le peuple d'Israélite dans l'espoir de le battre et de le chasser. Alors finalement, je passe les détails, là c'est qu'une... Un tout petit aperçu, Balaam se rendit auprès de Balak, et c'est au cours de ce voyage pour aller auprès du roi Balak qu'a eu lieu cet événement spectaculaire que Pierre raconte ici et que je viens de lire, événement au cours duquel l'ânesse de Balaam se mit à lui parler pour le rappeler à l'ordre. Et après, bien des tergiversations, Balaam finit par délivrer un message à la gloire d'Israël et par donner un certain nombre de prophéties sur différents peuples de la région. Et ça dure 3 chapitres, je veux dire, ce n'est pas rien. Alors, outre ce chapitre primitif important, Balaam est également mentionné dans 9 passages plus courts de l'Ancien ou du Nouveau Testament et en particulier celui qu'on vient de lire dans 2 Pierre. Et dans ces passages se dessine, et là on revient sur notre sujet plus directement, ce que certains de ces versets appellent la voie de Balaam, c'est-à-dire la voie au sens du chemin, V-O-I-E, la voie de Balaam qui est faite, ces versets le disent, en particulier d'argent mal acquis, de conduite immorale. Voilà ce que je pensais dire par une parenthèse sur ce personnage de Balaam, sur lequel on reviendra peut-être un jour. Partie 3, on y est, très bien. Les enseignants de mensonges, ce que Paul écrit sur leur stratégie. Alors, ils ont une stratégie, ces enseignants de mensonges. Ils cherchent, dit le verset 18, à appâter par l'attrait des désirs sensuels et l'immoralité. On sait, on l'a dit plusieurs fois, qu'eux-mêmes étaient sensuels et immoraux. Ils cherchent à appâter par l'attrait des désirs sensuels et l'immoralité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivants dans l'erreur, qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivants dans l'erreur. Et en lisant l'expression « ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivants dans l'erreur », on pourrait penser, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, qu'ils cherchent à appâter en particulier les nouveaux convertis. C'est l'idée que développe Samuel Benetron, que j'ai cité dans la prédication il y a 4 semaines. Sur ce passage, il écrit « Les cibles rêvées pour ses propos alléchants et ses sollicitations malsaines, les cibles rêvées, sont les nouveaux convertis, ceux qui ont rompu depuis peu avec le paganisme. » Ajoutons une remarque personnelle, qui est simplement une réflexion sur le mot prédateur que j'ai introduit ici. Les enseignants de mensonge, ce sont, c'est comme ça que je lis le texte, des prédateurs en chasse, à la recherche d'une proie, de proie au pluriel. Le mot apaté est un mot du chasseur, du pêcheur. C'est le chasseur qui appâte, c'est le pêcheur qui appâte. Il n'est certainement pas choisi par Pierre sans intention particulière. Et en effet, et là on oublie de Pierre, et en effet, c'est une constante à mon avis dans toute société, humaine ou animale, de s'attaquer aux membres les plus faibles de la communauté. Et dans le cas qui nous occupe, les prédateurs, là je reviens vers une phrase écrite par Samuel Benetron, tentent d'appâter ceux qui n'ont pas encore atteint la relative maturité que peut donner un enseignant, un enseignement suivi et l'expérience de la vie chrétienne. Je me reprends. Les prédateurs tentent, dit-il, d'appâter ceux qui n'ont pas encore atteint la relative maturité que peut donner un enseignement suivi et l'expérience de la vie chrétienne. Donc, fin de remarque sur prédateur, qui est la manière dont je vois ce texte. Faisons une deuxième pause. Une chose est d'identifier les prédateurs. Nous avons déjà dit qu'il convenait de demander au Seigneur, dès maintenant et pour ne pas être surpris, le discernement et la sagesse pour les reconnaître, si leur chemin vient à croiser un jour celui de nos communautés. Une autre chose est de protéger leur proie potentielle, en particulier les plus jeunes dans la foi, ceux qui n'ont pas atteint cette relative maturité que peut donner un enseignement suivi et l'expérience de la vie chrétienne. Protéger les proies potentielles par un enseignement suivi dans le partage de l'expérience chrétienne, c'est une responsabilité conjointe des familles et de la communauté, des communautés. Alors, ces enseignants de mensonge, pour en terminer avec leur stratégie, ils promettent la liberté. Liberté, liberté. Certains disaient Europe, Europe, d'autres disent liberté, liberté. Lisons le verset 19. On est toujours dans la stratégie. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, encore faut-il savoir de quelle liberté il parle. Le verset 19, il me semble assez clair, laisse à penser que la liberté qu'ils promettent, c'est la liberté de plonger avec eux dans leur conduite et dans leur péché, de plonger, comme on l'a vu, dans le cas particulier qui nous est expliqué ici, dans l'immoralité et dans l'amour de l'argent. Le verset 19 que je viens de lire dit que les enseignants de mensonges, sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine et que plus généralement, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et je pense que la liberté qu'ils proposent, c'est donc celle de les suivre dans les corruptions et dans l'esclavage qui va avec. Nous n'appellerions probablement pas cela liberté, mais c'est ce qu'ils, dans leur stratégie, ce qu'ils mettent en avant. Partie 4. Les enseignants de mensonges, ce partie 4, et je ne l'ai pas dit, et dernière partie, les enseignants de mensonges, ce que Pierre écrit sur leurs victimes, sur leur proie. Versets 20 à 22. Si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent, au pluriel, de nouveau entortiller. J'ai trouvé cette traduction qui me semble être imagée et intéressante. S'ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur condition est pire que la première. Je conçois qu'on ne sait pas très bien de qui il parle lorsqu'il dit « il ». J'y viendrai tout à l'heure. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ce proverbe « Le chien retourne à ce qu'il a vomi. En outre, la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. » Ces versets font frissonner. Alors, quel est le risque pour les jeunes convertis et plus généralement pour ceux qui seraient les proies de ces enseignants de mensonges? Il est grand. Le dernier des trois versets que je viens de lire, tant il est imagé, contribue largement à nos frissons. La truie à peine lavée se vautre à nouveau dans la boue. Tous ceux qui ont fréquenté les fermes, on fréquente beaucoup les fermes en ce moment, la télévision, vous avez remarqué, tous ceux qui ont fréquenté les fermes ont vu les porcs se rouler dans la boue. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, ajoute le texte. Alors, si le porc est clairement un animal dont la consommation est interdite par Lévitique 11, un animal donc impur par définition, le chien ne figure pas parmi les animaux explicitement interdits, mais le terme chien est très chargé dans la sensibilité israélite et il véhicule lui aussi une image très négative. Alors, avant d'aller plus loin, il est utile de préciser que certains commentateurs écrivent que le passage que je viens de lire, ces trois versets, concerne les enseignants de mensonges, c'est-à-dire les prédateurs, et que d'autres commentateurs écrivent qu'ils concernent leur proie, c'est-à-dire les jeunes convertis principalement, et peut-être d'autres personnes. Moi, je ne saurais pas trancher, donc je me reporte à la référence que j'ai annoncée, sans exclure une application aux prédateurs. Samuel Benetro applique ce passage aux proies. Il écrit « Nous estimons que la double illustration du chien et de la truie applique l'avertissement visant en premier lieu les nouveaux convertis susceptibles de se laisser entraîner par les promesses alléchantes d'hérétiques. » Le mot hérésie, il rejoint l'expression faux enseignant, enseignant de malheur. Il ajoute que Pierre a un souci pastoral constant pour des gens dont il espère qu'ils peuvent encore être touchés. Il ajoute encore que pour les faux docteurs, les enseignants de mensonges, Pierre tient un tout autre langage, on l'a vu, celui de la dénonciation et celui de l'annonce du jugement, de la perdition, était le mot que j'ai cité à plusieurs moments dans les lectures. Il précise que sans écarter un retour possible chez ces derniers, les prédateurs, son espoir paraît des plus ténus. Nous relisons les versets 20 et 21. Si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il est question ici de retour en arrière. Le retour en arrière de celui qui s'est, dans un premier temps, arraché aux influences corruptrices du monde et, dans un deuxième temps, se laisse prendre, se laisse entortiller et dominer par elles, cette condition étant pire que la première. Ces versets nous parlent d'un grand gâchis, le gâchis d'une vie chrétienne ratée, au point qu'il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connue. Je cite Pierre ici. Nous terminons par deux remarques. Première remarque, ce passage ne nous parle pas d'apostasie, c'est-à-dire de reniement public du salut en Jésus-Christ. Non que l'apostasie soit impossible, mais Pierre parle ici d'autre chose. Il parle d'une vie chrétienne gâchée, ce qui est déjà beaucoup. Et cette remarque est aussi l'occasion, excusez-moi de me répéter, de rappeler une fois de plus, c'est ma conviction, qu'on ne peut pas perdre son salut. Et comme beaucoup d'autres chrétiens, me semble-t-il, je crois, et je l'ai déjà dit il y a 4 semaines à propos du chapitre 1, on ne peut pas perdre son salut, lequel est garanti par la personne et par l'œuvre de Christ, et non pas fort heureusement par les efforts même redoublés que nous pourrions faire. Deuxième remarque, vous reconnaîtrez peut-être des mots que j'ai lus, ce passage met en avant la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et c'est par la connaissance qu'on a du Seigneur et Sauveur, c'est par le Saint Commandement qui nous a été transmis, qu'on peut ainsi s'arracher à la corruption du monde. C'est par la connaissance que nous avons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est par le Saint Commandement qui nous a été transmis qu'on peut s'arracher à la corruption du monde. Amen. Nous allons prier. Et après, en l'absence du président qui est parti à l'école du dimanche, je donnerai les annonces. Nous prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Le texte de ce jour dans lequel nous avons cru voir un modèle possible des relations prédateurs-proies qui peuvent, le cas échéant, se présenter à nous dans l'avenir, nous interpellent de deux façons. Et dans ces deux domaines, nous avons besoin de ton aide et nous venons la rechercher. Nous te prions pour que tu nous donnes le discernement et la sagesse pour reconnaître ces personnes que Pierre appelle des enseignants de mensonges, si leur chemin venait à croiser un jour celui de nos communautés. Par ailleurs, nous nous souvenons que ta parole nous parle de celui qui continue à se nourrir de lait et de celui qui prend de la nourriture solide. Nous te prions donc que nos familles et nos communautés aient à cœur de délivrer un enseignement suivi dans le partage de l'expérience chrétienne, de sorte que chacun, y compris les plus jeunes dans la foi, puisse distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen.